des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
C'est commencé?
Hein?
Alors, comment ça, on n'a même pas un petit verre de vin, rien?
Moi, j'ai déjà commencé. T'es arrivé en retard. Moi, j'ai déjà un fond.
C'est toujours des reproches, hein, finalement. Quelle excuse est bonne pour que te créer un fond, finalement?
Je suis toujours en retard, mais quand c'est le temps de boire, je suis un peu plus tôt que les autres.
Devine qui vient souper, mon bel amour.
Qui?
Un chef et une sexologue.
Un chef culinaire et une sexologue. Donc, on va parler de pommes de terre grelots, d'œufs au plat, de gros melons juteux, de zucchini et de saucisses. Super! J'adore.
Oui, c'est exactement ça. Alors, on reçoit Dany Saint-Pierre et Sylvie Lavallée.
Il y a beaucoup de liens entre le cul et la bouffe.
Ben, ça fait 2 jours que toi et moi, on n'arrête pas de parler de cul et de bouffe et de liens entre les deux, se préparant pour la soirée de ce soir.
Par exemple, c'est stressant de recevoir un chef à souper. C'est stressant de baiser avec une sexologue.
Je sais pas, j'ai jamais baisé avec une sexologue, personnellement.
Moi non plus. Denis Arcand disait dans le déclin de l'Empire américain, c'est-à-dire que la gastronomie est le sexe des gens qui bandent plus. C'est ça qu'il disait, là.
Mais là, comment ça se fait que toi et moi, on s'intéresse beaucoup à la gastronomie? Pourtant, on a une vie trépidante au lit. Donc, c'est pas mutuellement exclusif. On peut aimer avoir des et aimer manger. On peut aimer les deux.
Bruit de criquet à rajouter ici.
Pourquoi tu ne me sers pas un verre de vin pendant que tu me parles de ça?
Et la gastronomie s'est rendue comme la pornographie, c'est-à-dire que plus tu parles de cul, moins tu baises, on le sait, là. Puis plus tu parles de bouffe, moins tu cuisines. Et là, ici, nous autres, on a plein de livres, puis c'est comme les nouveaux Playboy. Mais au lieu d'être un centerfold, c'est une dinde. C'est une dinde désossée, écartée. C'est un veau. C'est ça, puis tu regardes ça, puis tu salives. Il y a vraiment un lien à faire entre le cul et la bouffe.
Et est-ce que tu penses que ce soir, on va leur raconter que toi et moi, on est tombés amoureux l'un de l'autre en parlant de nourriture?
C'est vrai.
Alors, c'est encore une fois un lien entre la sexualité et la nourriture.
On se détestait, puis on a eu un souper ensemble, mais je voulais pas y aller parce que t'étais là, puis je te détestais, et tu m'haïssais, et on s'est assis un en face de l'autre, on a parlé de bouffe, et ce fut un coup de foudre, excuse-moi.
Alors, la première fois que j'ai goûté à la nourriture de Dany Saint-Pierre, on habitait un loft dans le Vieux-Montréal, Richard et moi, et c'était le party de Noël des francs-tireurs. Et là, on nous dit, ben, est-ce que ça vous tente de le faire chez vous? Fait que là, moi, je dis, ben oui, la gang des francs-tireurs sont vraiment gentils. Et là, il y avait un service de traiteur. Et c'était Dany Saint-Pierre qui faisait traiteur. Puis là, moi, je capotais, c'est la première fois que je mangeais sa bouffe. Et il nous avait préparé sa fameuse poutine inversée. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Et depuis, ben oui, je suis allée manger souvent dans ces restaurants. Mais je me souviendrai tout le temps de cette première fois que j'ai croqué. Et tu vois comment c'est sensuel, justement. La poutine inversée, c'est comme une boule de pommes de terre avec à l'intérieur la sauce qui, normalement, est sur les pommes de terre, est à l'intérieur. Mais quand tu croques là-dedans...
Ça explose c'est comme... la sauce dans ta bouche.
Oui, hein, peut-être du liquide qui coule.
C'est une explosion de sauce dans ta bouche.
T'en as un petit peu qui coule le long de ta bouche, là. C'est comme... C'est bon! Mais ce soir, tu sais, habituellement, on fait toujours du venir. Ben, tu sais, on fait venir de la bouffe. En veux-tu un autre lien subtil et nuancé? On fait venir de la bouffe? Ouh là là, bon.
Première joke de ma tante. On est rendu à notre 6e podcast. Première joke de ma tante, merci.
Alors, on fait venir habituellement des sushis. Et là, on a fait venir de l'italien. Donc, je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, j'ai fait venir un italien. Bon.
Non, mais les Italiens, la bouffe et le sexe. C'est quoi la toune? Il était heureux comme un Italien lorsqu'il sait qu'il aura de l'amour et du vin.
Je me sens femme.
Femme. Oh, on est blanc.
Ça sonne? Allô?
Allô?
Je suis rendue!
C'est la sexologue!
Ah oui, ah ouais, il rentre vite, on gèle, c'était frêlant!
Ah, ça va?
Ça va bien, merci de me recevoir!
Ben, merci de venir!
De faire un vœu!
Merci! Ah oui, c'est vrai, tu fais ça toi aussi?
Oui,
hein?
Ben oui!
Quand t'arrives,
c'est la première fois que je suis ici, alors je fais un vœu.
Tu fais tout le temps un vœu quand t'arrives...
Ben oui, une première visite, un premier endroit, une zone explorée... Tout est à découvrir.
Ton territoire n'a pas été parfaitement cartographié encore. Il y a encore des zones.
Ah, vous avez beaucoup à découvrir de moi, ça.
OK.
Ah, oh, ben là, j'espère. Attends, je vais prendre ton manteau. C'est la première fois que je déshabille une sexologue. On va faire des jokes comme ça toute la soirée, Sylvie. Mais j'imagine que t'es habituée.
Oui. Double sens sous-entendu.
Déjà! Hey, écoute, c'est vraiment drôle que vous arriviez les deux en même temps, presque.
Hello!
Hey, salut! Hey. Ah. Hey, je savais que t'allais faire ça. C'est-tu quoi?
C'est savoir vivre, c'est pas évident.
Il a apporté des fleurs. Hey, ça, c'est vraiment. C'est-tu quoi,
Dani?
Bonsoir.
Je m'en venais en auto, puis je me disais, Dani, c'est le genre à apporter des fleurs.
J'adore les fleurs. On s'offre pas souvent des fleurs. C'est un beau cadeau d'hôte. C'est éphémère, c'est amusant.
Est-ce que c'est la première fois que vous vous rencontrez,
oui,
tous les deux?
Oui, oui, enchanté.
Hey, restez pas là en chaussettes dans notre entrée. Rentrez donc.
C'est qui le pot pour mettre les fleurs?
Ben, au même endroit qu'il y a les ciseaux.
Où ça? C'est où?
Ben, il faut raconter l'anecdote. C'est qu'en rentrant à la maison, j'ai demandé à Richard une paire de ciseaux pour ouvrir le sac de sel, pour mettre du sel pour dégeler la glace devant la maison. Et là, je dis à Richard, peux-tu m'apporter un ciseau? Et il ne savait pas où étaient les ciseaux dans la maison. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Il y a, les vases, ils sont dans le salon. Va m'en chercher, hein, s'il te plaît. Le salon, c'est comme la pièce à droite, ici, en tournant.
Est-ce que Charles vient?
Oui. Mmh. Et Dani, tu ne prends pas de vin.
Non, moi, je bois pas.
Tu bois pas? OK. Parfait. Mais ça te dérange pas si nous, on boit pour deux?
ça me met mal à l'aise, ça.
Tant mieux.
Ça me met mal à l'aise devant des gens qui boivent pas parce que j'ai l'impression qu'ils me jugent.
Ah, ben là, il faut que tu gères, là, Richard. Moi, je te juge pas, j'ai assez à me juger moi-même, là.
Non, mais là, on se sent mal à l'aise de boire de l'alcool. On avait reçu à un moment donné, ben, Denis Lévesque, tout le monde le sait qu'il en est il en parle lui-même. Puis là, je me dis, ah, est-ce que je devrais boire? Est-ce que
il faut boire du vin devant
quelqu'un qui est dans les
personnel, voyons donc.
Mais tu sais, déjà qu'on est gêné de te recevoir alors qu'on ne fait pas à manger.
Hey, je suis affaire d'inviter. Moi, j'arrive avec des anecdotes, de l'esprit. J'accompagne, je ramasse en jasant. Voyons donc.
Ah, tu ramasses en jasant? Bon, ben, c'est super. Fait que Richard, tu nous ouvres une bouteille de vin? Il doit avoir du vin au frigo?
Ouais.
Tu sais où est le frigo?
Ouais, ça, je sens
mon petit. Hey, les amis, donc, qu'est-ce qu'on te sert? Toi, on te sert du Perrier.
Un verre d'eau, moi, je suis correct avec ça.
Richard,
c'est
Perrier dans le frigo? C'est du Five Alive.
Je me suis fait Five Alive. Un petit Perrier, moi, je serais heureux.
Elle est très bonne. Alors, avant que vous arriviez, on parlait de tous les liens qu'il y a entre la nourriture et le sexe. Et on aurait pu en parler pendant une heure et demie de temps, mais on se dit que c'est mieux d'en parler quand vous allez arriver. Mais déjà, regarde, dans ma cuisine, sur les étagères, c'est rempli de livres de recettes que je n'utilise jamais, Sylvie.
C'est alors comme
c'est,
moi?
C'est un peu comme des Playboy. Tu regardes le centerfold, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu fais toutes les positions du Kama Sutra.
Il faut être flexible, hein?
Il faut être flexible. Pour faire le Kama Sutra ou pour faire de la cuisine?
Un petit peu des deux.
Moi, je trouve que ce que ça dit, c'est que même si on a plein de livres, on cherche encore qu'est-ce qu'on mange.
C'est
on
fou.
A besoin d'être inspiré, mais le désir aussi, on a besoin de cultiver ça. Parce qu'on dirait que quand le désir part, puis c'est beaucoup ce que j'entends dans mon bureau, ben il est parti, mais je sais pas il est parti où, il va revenir. Il ne reviendra pas tout seul. Mais on n'a pas appris à le cultiver, on le prend pour acquis comme respirer. Vous levez-vous la nuit pour... Faut que je respire, faut que j'inspire, faut que j'expire. Non, ben le désir, on le prend pour acquis jusqu'à notre mort. Non, non, quand il s'en va, là, il est parti.
Des fois, le désir est dans le fond de la boîte de chocolat ou du sac de chips aussi, hein? y a un switch qui se fait où tu arrêtes d'être sexué, puis tu deviens gourmand, hyper consommateur. Il y a quelque chose qui switch à un moment donné, la chasse devient sédentaire, puis tu t'assois dessus.
Mais tu manges des chips. Toi, à quel âge ça arrive?
Je pense pas que c'est un âge, moi, c'est un état d'esprit.
Mais toi?
Moi, c'est pas arrivé encore. C'est arrivé dans d'autres relations, mais c'est pas là que j'étais à la bonne place encore.
On peut dire quand même généralement, de façon générale, que la période des brûleurs de tapis ses genoux, à un moment donné, ça passe dans un
coup.
Maintenant, on recherche le confort.
Serait le bon moment pour que mon fils rentre dans la cuisine pour qu'on change de
sujet. Mais là, vous autres, les brûleurs de tapis ses genoux, là, la période de oui. passion sexuelle et tout ça, il y a un livre qui est Frédéric Becbédé, L'amour de 3 ans. Bon, je sais pas.
C'est moins que ça.
Ah,
mais là, on est en vitesse Internet, hein?
Et tu trouves que ça s'est accéléré? Ouais. Ah oui!
Je trouve que les gens... Bien, évidemment, là, on va le clarifier tout de suite. Moi, j'ai une vision biaisée. Okay? C'est sûr que je reçois des gens qui vont pas bien. Je travaille toujours dans la souffrance, le tourment puis les traumatismes. Alors, c'est sûr que les gens qui vont bien, ils viennent pas me le dire, à moins qu'ils aient une question précise, là. Fait que c'est biaisé parce que j'ai des gens qui vont pas bien. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont la première vraie altercation. Hein? Je découvre ça, toi. Hein? Tu penses ça? Non, on s'entend pas. C'est comme si, je te jure, c'est comme si, oh là, il y a quelque chose de fini, là. Ça fait un an et demi. Ça fait 2 ans. Ça fait 6 mois.
Le make-up sexe est un des sexes les meilleurs au monde. Baiser après une grosse chicane, c'est génial.
T'es vraiment réconcilié.
Non, mais comme tous les couples, des fois, on a des chicanes, puis on est 2 personnes à caractère, fait que quand on chicane,
c'est normal.
Ça scintille.
Mais tu sais, à 18 ans, parlerais-tu comme ça à ton recherchiste?
C'est vrai.
On met des gants blancs dans le travail, puis on n'en met pas dans la vie de tous les jours, alors qu'on devrait en mettre encore d'autant plus.
Oui, on s'habille bien pour aller travailler, on s'arrange, on se maquille, on se met un masque social, puis on sourit. Puis quand on arrive à la maison, ben on se met en mou, le cheveu gras, la couette sur la tête, puis l'air bête.
Oui, parce que c'est assis sur les ébailles.
Oui. Puis à licher Doritos et 2 bars en écoutant le Super Bowl.
Licher les Doritos, ça, c'est vraiment. Moi, ça, je trouve ça érotisant.
Es-tu une fan de Doritos?
Mettez-moi pas des chips parce que j'ai le nez dedans.
Ah, des Doritos et des crottes au fromage.
Des Doritos, c'est dirty, hein, des crottes au fromage. Il y a quelque chose là-dedans, là. Ouais.
Moi, ton guilty pleasure alimentaire?
Écoute, ça commence. Moi, j'ai vraiment plein de. C'est pas des compulsions, mais quand je commence à manger quelque chose qui me fait vraiment plaisir, là, j'ai beaucoup de difficultés à arrêter. C'est comme il y a des fils qui se touchent, là, puis ça devient vraiment comme. C'est presque un psychotrope, là. Il y a quelque chose qui se passe. Mettons des Doritos. Des Doritos, tu peux pas manger juste un Doritos. Moi, c'est des poignées, là. Tu sais, moi, je mange pas du popcorn, je mange du popcorn. Tu sais, puis c'est comme ça, il va. Heart fucking core.
Bon, on va aller prendre l'entrée. On va aller s'asseoir.
Alors, des places assises.
Oui. Puis donc, on va mettre Sylvie à ta gauche.
Ah ouais?
Oui. Puis, oui, mais Richard, il trouve jamais que c'est assez chaud. Il trouve jamais que je suis une fille assez chaude. Non, les plats sont jamais assez chauds. Hey, est-ce qu'on peut trinquer,
oui.
même si toi, t'es au
Perrier?
Ben oui,
arrêtez.
Ben, on peut peut-être avoir juste d'autres
mais
Perriers.
Mais j'en prends peut-être du Perrier aussi.
Tu veux du Perrier aussi?
Parce que je conduis après.
Ouais, mais tu vas voir, on va boire raisonnablement.
C'est chill.
Santé.
Bon, le premier lien qu'il y a entre les chefs et les sexologues, je le disais, c'est stressant de recevoir un chef à souper et c'est stressant de coucher avec une sexologue. Non, parce que ça m'est jamais arrivé. Vous êtes comme les tops dans votre monde, dans votre univers, et recevoir un chef.
C'est sûr que c'est la première fois que quelqu'un dit ça. Ouais.
Non.
Non, mais c'est le Tu vois, chef sérieux, tu vois le gars fondre, se liquéfier, puis s'en aller. Hein.
Tu vois, c'est qui a de la confiance? Moi, j'ai marié mon viking.
Donc, t'es pas célibataire.
Mais non, je suis mariée.
Ah, regarde la belle veste, oui, hein. T'as une méchante belle bague, d'ailleurs.
Et c'est un Norvégien?
Non. Non, parce que quand je dis mon viking, c'est parce que je trouve que c'est mon mâle alpha. Un, je suis pas née dans la bonne époque. Moi, j'aime les robes. J'aurais aimé ça dans les années 50 pour avoir toutes les robes de Mad Men.
Moi, là, je... Ouais, moi, ma mère, c'est ma période favorite.
C'est moi, toutes ces robes-là, là, grease, tout, je veux être réincarnée là. Mais j'ai dit, je pense que t'aurais aimé ça, avoir une petite femme là, qui t'accueille, là, avec le petit martini.
L'époque, elle aimait l'époque où les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes.
C'est spécial de dire ça, là, en 2019, mais ça fonctionnait. Puis, je trouve que les hommes, leur déroute aussi, c'est que les femmes, il y en a qui sont autosuffisantes. Je travaille, je vis tout seul, je suis autonome financièrement, je suis cœur d'une entreprise, je gagne au-dessus de 100 000 par année, je me sais ce que je veux, je voyage, j'ai 3 chats, j'ai des amis, j'ai des amants, je suis sur Tinder, je suis autosuffisante. Le gars, il a quelle place là-dedans? Moi, ça fait mon affaire de ne pas m'occuper du barbecue. Un, j'ai peur. Puis deux, ça
t'es
m'intéresse
drôle,
pas.
Moi aussi, j'aime ça.
Ça m'intéresse pas de conduire manuel.
Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la notion de choix. Parce que je pense qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le choix. Mm. Puis les portes étaient fermées. Mm. C'est ça qu'on reproche. Mais tu sais, dans un moment où on a le choix, moi, je trouve qu'on délègue beaucoup dans nos rôles familiaux. Tu sais, mettons, les deux travaillent, que ce soit le gars ou que ce soit la fille, que ce soit les deux. Oui. Puis on commence à s'engager une nanny. Puis on commence à payer du service de garde. Puis on commence à payer des coachs. Puis à payer ci. Puis à payer ça. Fait que là, le trois quarts de ton revenu secondaire, il se ramasse dans quelque chose que tu délègues. Mm. Fait que oui, ça fait tourner l'économie. Oui, tout le monde est valorisé, mais là, on court comme des crises de fous parce qu'il faut que tu partes plus tôt, il faut que tu arrives plus tard. Puis là, tu mènes deux vies au lieu d'en mener une. Tu as une vie au travail, puis tu as une vie que tu essaies de vivre à la maison.
Mais après ça, tu arrives dans mon bureau, j'ai plus de désir. Ouais. Je t'aboute.
C'est
je fais de ski. Je pense que je fais de l'anxiété. Regarde-toi.
Regarde-toi aller.
Mm. Regarde-toi.
Mais tu parlais de choix. Avant, les femmes n'avaient pas le choix d'être dans un certain stéréotype et d'être avec des gars, des providers, puis d'avoir un rôle, être à la maison, tout ça. Maintenant, les femmes ont un choix. Et les femmes qui choisissent ça, qui choisissent « moi, je vais être à la maison », je ne suis plus obligée de le faire, mais je vais être à la maison et je veux un homme viking. Je veux un homme.
C'est un choix.
Et là, ces femmes-là sont mal vues.
Oui. Elles
sont
mal traitées du soir.
Surtout si elles sont
diplômées. C'est leur choix.
Clairement.
Mais t'écoutes les féministes, c'est pas ça qu'elles disent. Là. Elles jugent, au contraire, les femmes qui choisissent de rester à la maison.
Tu sais, Sylvie, elle aime ça, un gars qui est gars. Pis
ben oui.
C'est son choix, puis elle a le droit d'être comme ça. Pis, non, mais c'est vrai.
Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le fait aussi qu'un homme qui a un revenu moins élevé que sa conjointe, souvent, a honte de dire ça à ses chums.
Ouais.
Puis d'arriver, puis tu fais, mettons, tu sais, il y a des années, ma blonde a fait plus d'argent que moi.
Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait ta blonde?
Ma blonde, elle travaille en télévision. Okay. Des fois, elle est productrice au contenu.
Wow.
Des fois, elle est rédactrice
elle fait
en chef.
Plus d'argent que toi.
Ça dépend. Il y a des années, mettons, moi, où mon restaurant allait moins bien, là.
Ouais.
Puis ma blonde, il y a des années où elle a fait plus d'argent que moi. Puis c'est comme ça. Puis nous, on a un écosystème.
Est-ce que toi, tu te sentais.
Diminué?
Je me sentais pas diminué parce qu'il y a des années où j'ai fait beaucoup plus d'argent, puis nous, notre relation est pas basée sur ça. Puis tu sais, en vieillissant aussi, puis en évoluant, je crois qu'on laisse tomber beaucoup, beaucoup de gogos.
Mm.
Puis nos besoins changent, puis tu sais, on a une belle maison qu'on a achetée, on est bien, on a de beaux enfants, on s'aime, on est lag. On est dans un moment de notre vie où on est lag.
Mm.
Mais tu sais, un homme qui choisit d'en faire moins, faire moins de cash, puis laisser sa blonde performer, ça paraît pas super bien. Mm. Puis à l'inverse, une femme performante qui va décider de se retirer, qu'est-ce qu'elle va avoir comme condition si elle se marie pas, cette femme-là? Tu sais, le sacrifice que tu fais, justement... Mm. Moi, j'ai tellement vu des couples de médecins, admettons, quand j'habitais à Sherbrooke, où ils sont ensemble, puis à un moment donné, ben, t'en as un qui est cardiologue puis qui fait 700 000 par année, puis la dame, elle fait de la médecine générale, puis elle est médecin de famille, puis elle fait 300 000, puis à un moment donné, ils font un choix... La dame reste à la maison, puis à un moment donné, elle s'efface. Puis, boum, 6 ans plus tard, ben le dos, il s'en va, puis il se ramasse une adjointe. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart sa run, tu sais, c'est comme...
Je comprends ce que tu dis, je comprends fort bien, mais dans l'autre inverse, t'as la fille qui est no fucking body, qui sort avec Paul McCartney.
Oui.
Puis là, soudainement, là, quand elle se sépare, elle, c'est comme si elle avait co-écrit toutes les tunes des Beatles.
Tout à fait. Elle
a droit à 50% des droits d'auteur de Let It Be. Là.
Ben, si le mari n'a pas de prenup, c'est son hostie de problème.
Ben, c'est ça.
C'est comme, do a fucking prenup. T'es entouré de fiscalistes depuis 72 ans. Puis là, t'es là parce que t'as la bite au vent, là, puis t'as décidé qu'elle était hot. Puis c'est un mannequin
la
de 37 ans.
Au vent.
Là, tu te dis, c'est encore
puissant,
capable.
Mon Dieu.
Puis là, tu fais comme, hey, dude, un prenup, 10 d'en face, puis come on, là.
Et ça lui a coûté une jambe.
Vraiment. Oh!
Ben, il aurait dû prendre sa jambe du milieu avant, la ranger, puis réfléchir un peu avec son compte de banque.
Mais non, mais on veut pas faire ça en amour.
On veut pas, mais
on
faut
veut
le
pas,
faire.
On veut
tu
pas.
Prépares la guerre.
On veut pas, parce que... Le couple, là, c'est trois choses. Pourquoi un couple, c'est de l'ouvrage et qu'il y a trois aspects? Le couple a une notion socio-économique.
Mm.
On est une petite PME. Mm-hmm. On vit avec un tissu social, avec un entourage. On paie des choses. On s'achète des choses. On signe, on contracte une hypothèque. On va peut-être signer un testament ou un contrat de mariage. Donc, c'est une notion socio-économique. Il y a une notion affective. Ça, on la comprend tous. Mm. Parce qu'il y a une notion érotique, sensuelle, fantasmatique. Puis, il y a une notion psychique.
Ah oui?
Chacun vient avec son bagage personnel et sa psyché. Ses croyances, ses convictions, ses valeurs, ses principes. C'est pour ça que ces trois aspects-là se juxtaposent et s'entremêlent et s'entrechoquent. C'est pour ça que c'est de l'ouvrage, parce que des fois, c'est le socio-économique qui fonctionne pas, des fois, c'est l'affectif, puis des fois, c'est le psychique.
Sans faire mon nostalgique, ce que je vais faire... Est-ce qu'on se pose trop de questions?
Par c'est simple psychiquement d'être nostalgique.
Par exemple, et là, je fais le parallèle entre encore l'amour, la sexualité, / la bouffe. Parce que il y a vraiment. Mm. C'est pas pour rien qu'on vous a eu les deux ensemble.
Il y a la bouffe un peu, là.
Je dis, mais. Avant, tu pouvais recevoir des gens avec un spaghetti à la viande, tout le monde était content, on s'en sacrait.
Ouais.
L'important, c'est la conversation peut être là.
Oui.
Là, c'est il faut que tu fasses un Christy de show. Bon, avant, dans les relations, mes parents ne se posaient pas des questions comme ça. Ils étaient ensemble, tout ça, là, tu sais, puis ils s'aimaient, puis ils étaient ensemble, puis c'est tout. Là, on se pose des questions, puis on veut tout. On veut, là, on veut la carrière, on veut l'amour, on veut la vie familiale.
On n'est jamais à bonne place.
On est trop.
Je suis pas sûr qu'on est trop exigeant.
Des fois, en bouffe et en amour, un spaghetti à la viande, ça fait l'affaire. C'est-à-dire, le mieux est l'ennemi du bien.
Ça dépend de la mise en scène que tu fais. OK, si on embarque clairement sur une performance d'hôte, puis on fait fi des autres aspects qui ont été énoncés, là, c'est quoi un bon hôte? Ben, c'est quelqu'un qui a de la nourriture de prête quand les gens arrivent, qui a du vin au frais, les verres sont sortis, puis qui a du rythme. Une bonne soirée, là, c'est pas ce qui se passe dans l'assiette, c'est le beat. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que tu as pensé à quelque chose avec une petite attention? Les gens qui ont fait de la route, tu leur sers un drink. Tu te rappelles du drink de ton ami, puis tu fais...
Hey, tu en as acheté.
Hey, j'ai tout le kit là, pour peut-être te faire un drink. Ouais. Tu m'en ferais-tu un?
Ah.
Une table avec du stock dessus, pas que le monde se mette trop chaud. Que ça ne finisse pas jusqu'à la fin des temps. T'sais, mettons que ton souper, il peut finir vite. Puis s'ils veulent traîner, ils traînent. Mais ils sont pas pognés à table à être là avec de la bouffe frette puis à faire comme « Ah, Christy, ça va-tu finir à un moment donné? » Moi, je vois tellement
Le beat.
Puis, des gens qui sont là, puis qui essayent d'impressionner, puis qui se font chier, puis ils prennent des belles denrées, puis là, ils se ramassent un peu pactés, puis ils sont pas capables de les faire cuire. Puis, moi, je fais comme, pourquoi vous avez fait ça? Faites les plats que vous faites d'habitude. Tu sais, c'est pas. Faites ça quand vous avez du temps, quand vous êtes deux, pas quand vous êtes huit, quand vous êtes dix. Mais ça,
c'est un stress.
C'est des
que
niveaux.
Les gens se mettent eux-mêmes sur les épaules, je suis d'accord
moi,
avec
je
toi.
Je sais pas, là, mais je vous écoute, là, puis je suis pas là, pas en tout. Je me stresse pas à du bio, pas. J'en mange pas de bio, puis de gluten, puis de vegan, puis de ci, puis ça.
Ce que j'essaie de faire depuis tantôt, le parallèle entre la bouffe et les relations hommes-femmes, justement, c'est qu'à un moment donné, on tripe trop sur la perfection.
Mm.
Faut que tout soit parfait, faut que tout soit extraordinaire. Les relations avec les enfants, les relations entre le travail, puis l'amour, la sexualité, puis tout ça. Maintenant, on peut-tu être déstressé? Nos parents ne se posaient pas ces questions-là, puis ils étaient 30 ans ensemble. On peut-tu arrêter là, d'être parfait partout? Puis rien qu'on est un couple, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, puis tout ça. Là, tout, il faut que ce soit impeccable. On vit notre vie amoureuse et gastronomique comme si c'était Martha Stewart qui Il réglait tout avec la petite serviette qui était parfaite.
C'est très drôle. Je peux-tu raconter l'anecdote de Jean-Pierre? Ouais. On a un ami, Jean-Pierre Plante, qui est scripteur en humour, qui a travaillé avec plein de gens dans le milieu de l'humour au Québec, qui a fait des bye-bye pendant des années et tout ça. Et à un moment donné, il est au restaurant et il y a un petit couple de petits vieux, puis ça rejoint et toi, Sylvie, la sexologue, et toi, Dani, le chef. Et il entend un petit couple à côté, puis là, le vieux monsieur, il ouvre son menu, puis la vieille dame âgée ouvre son menu et le monsieur, il se tourne vers sa femme, puis il dit... Est-ce qu'on aime ça, nous, les crevettes?
Oh. Ah! Ça, c'est amusant.
C'est cute comme histoire parce que ça dit plein de choses. Ça dit des gens qui sont pas capables d'assumer ce qu'ils aiment, puis des gars un peu à la québécoise qui, c'est la femme qui décide. Fait que c'est la femme qui décide si... Est-ce que nous, collectivement, comme couple, on aime ça, les crevettes? J'adore cette anecdote-là.
Ça, c'est la signature du couple.
Oui. Ouais. Mais tu sais, de s'assumer, d'assumer que ce qu'on est, ce qu'on aime, puis de l'affirmer, c'est pas toujours évident.
Il y a une grosse hypocrisie. Les gens, tu sais, trippent ces émissions culinaires, puis les livres de chefs, puis tout ça, et finalement courent comme des fous, comme des débiles, ont pas le temps de cuisiner, OK? Ils prennent des choses déjà préparées ou alors ils prennent des boîtes, les good food et tout ça. Bon, OK, ça, première hypocrisie. Deuxième hypocrisie, les gens disent « Oh my God, ma vie sexuelle est incroyable, c'est fantastique, là. 50 nuances de gris, là, puis on se tape ses fesses. » Puis... alors que non, les gens courent tellement, sont tellement crevés. Là. À un moment donné, une fois que les enfants sont couchés, là, ils disent, on va baiser, puis ils baissent pas, ils dorment, puis ils rentrent. Fait que finalement, on dit que notre vie gastronomique est extraordinaire, ce qui est faux, parce que ça le démontre, les faits le démontrent, c'est des plats préparés. Et on dit que notre vie sexuelle est extraordinaire, ce qui est faux, parce que les gens courent tellement à gauche et à droite qu'ils n'ont plus l'énergie de baiser. Donc, il y a une hypocrisie totale.
Mais moi, je pense qu'il y a un manque d'organisation. Tu sais? Il y a quelque chose qu'on exploite beaucoup comme discussion dans mon cercle d'amis, là, c'est le fait que tu as un travail, il occupe environ 40 heures dans ta semaine, il est du lundi au vendredi, c'est toujours les mêmes heures. C'est souvent un travail que tu as choisi parce qu'il y a un budget à ce travail-là. Mettons, c'est la paye que tu voulais, tu as étudié là-dedans, ça ne te tente pas de recommencer. C'est pas tout à fait ça, ça te fait chier un peu, mais tu le fais pareil. Fait que là, il y a une partie de ta vie qui est là où tu es poli, tu es convenu, tu es à off. Puis après ça, tu essaies d'avoir une vie avant, puis après ton shift, puis ta fin de semaine. Fait que là, tu as travaillé toute la semaine à être performant pour pas te faire sacrer dehors. Puis là, le matin, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles porter tes kids. Le soir, tu reviens. Puis là, tu essaies de faire une activité. Tu fais les activités de tes enfants. Puis là, la fin de semaine, tu essaies d'avoir une autre vie qui, elle, est pleine, où tu peux faire ton scrapbooking, puis aller faire du skidoo. Puis c'est pas intégré. Moi, ce qui m'a marqué tout à l'heure dans ce que tu racontais, c'est que ta vie est entière. Mm. Tu respires... ce que tu fais dans la vie, ce qui te passionne, ton métier, puis c'est intégré à ta vie. Je pense qu'il y a, une clé dans ça.
Ouais.
Essayer d'avoir du fun partout où tu passes. T'es pas bien, tu travailles avec des caves, ils t'emmerdent. Essaye de faire le choix ou améliore ton milieu de travail. Essaye de pouvoir aller chez toi puis juste être calme chez toi. Puis pas essayer de compenser quelque chose puis de rusher pour
Mais t'as pas le temps, parce que tu cours.
Ouais, mais il y a une
façon de voir les enfants.
Tu sais, cuisiner, là, on parle de l'hypocrisie de la cuisine. Là. La plupart du monde à qui je parle de faire un plan, puis un budget, puis un menu, là, tout le monde m'envoie chier, puis ils font comme « Hey, il y a pas qu'un monde qui se mette la pression de le faire, ou ils se disent qu'ils vont être spontanés au marché, puis là, ils ont deux enfants en dessous des bras, puis là, ils vont à l'épicerie à tous les jours, puis ils ont pas fait de menu. Puis là, tu regardes leurs armoires, là, puis il y a 3 000 $ libre d'impôt dans leur congélateur, puis en petite crise de lentilles bio, là. Puis là, il y a personne qui est capable de faire un inventaire. Tu sais, on n'appelle pas un analphabète d'économie familiale.
Eux autres qui ont le temps là, de préparer un mets thaïlandais, tout comme toi, penses-tu que les gens ont le temps de faire la brouette thaïlandaise, tu sais?
Lien.
Moi, je ne connais pas la brouette thaïlandaise. Qu'est-ce que
c'est?
Tu
connais pas la brouette thaïlandaise?
Non, c'est pas rencontré.
Non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça existe vraiment?
Souris parce que, tu sais, tout a un nom, dans le fond.
C'est quoi la brouette thaïlandaise?
Décris-nous dans ta
tête.
C'est quoi?
Moi, ce que je vois,
c'est la fille. Je pense que la fille est penchée.
C'est la fille qui est sur ses coudes. Est-ce que tu t'appelles? Les jambes relevées, puis tu la prends par derrière.
Une levrette. Par quelle origine?
Le genre de levrette.
On appelle ça la atergo. Le vrai nom, c'est atergo. Alter ego, à côté, atergo. Et je suis en arrière. Puis là, il y a plein de variantes là, qu'on se tient sur les... mais...
Parce que la plupart du monde, ils rêvent rien d'avoir la position du Michelin une fois par semaine.
La plupart du monde, juste avoir...
Mais c'est qui, eux, la plupart du monde? Les connaissent pas, là. Les gens ordinaires, les cours comme des Christy de Pou, là, tu les vois pas, là.
Les gens extraordinaires aussi, ils courent. Tout le monde court, parce qu'ils qualifient pas.
Il y a une phrase, et je pense que c'est Jean-Marc Léger qui fait les sondages, qui avait résumé ça, mais je pense que la phrase est pas de lui. On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas vraiment achetant des affaires dont on n'a pas besoin. Mmh. Et quand tu réfléchis à ces trois phrases-là mises ensemble, ça résume pas mal la vie de plein de monde. Et moi, je pense, en vieillissant, tu disais... Tout à l'heure, et ça m'a beaucoup touchée, Daniel, tu dis, en vieillissant, on élague.
Oui,
je pense
beaucoup,
que c'est ça que tu as dit.
Beaucoup, beaucoup.
Et moi, je suis dans une période d'élagage. Mais je suis plus vieille que toi. Moi, j'ai 53 ans. Et je suis dans une période d'élagage. Et j'essaye de me concentrer sur ces trois affaires-là. Mm-hmm. Faire, tu sais, d'impressionner des gens qu'on n'aime pas. Pourquoi? Les gens que j'aime pas dans ma vie, je m'en débarrasse. Je cherche pas à impressionner des gens qui, de toute façon, ne m'aimeront pas. Avec le métier que je fais, il y en a plein. Mm-hmm. Je vais pas dépenser de l'argent que j'ai pas. Donc, je m'arrange pour juste dépenser l'argent que j'ai puis en mettre de côté. Et surtout, ne pas acheter des affaires dont j'ai pas besoin. Tu sais, on déménage bientôt, Richard et moi, puis là, je fais le tour des placards.
Intense,
la quantité de cochonneries que j'ai achetées dont je n'ai pas besoin.
Regarde-moi pas.
Mais ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais je cherchais quoi en achetant telle patente? Hey, écoute, j'ai un moule à gaufres.
Ah, ouais,
je ne l'ai jamais utilisé.
Tu
veux l'acheter?
Moi, je te laisse. Je vais faire un échange avec toi, OK?
Qu'est-ce que tu vas me donner en échange?
On va se faire un inventaire de patente, peut-être avec des choses que tu veux.
Mais fais-moi du sucre à la crème.
Je veux un bon moule à gaufres, par exemple. Je veux voir ton moule à gaufres, ça m'intrigue, là. Tout à l'heure, vous étiez mal à l'aise par le fait que je buvais pas.
Ouais.
Oui. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire.
OK.
J'étais pas à shaker le matin, on s'entend, là, tu sais.
Je te fais une parenthèse. C'est où le point où tu te dis, là, j'ai un problème? C'est où la frontière où tu te dis, là, c'est comme...
Mais c'est peut-être pas un problème, là,
je pense que c'est une question de maintien. Moi, je trouvais que je perdais mon décorum.
Mmh.
Puis en restauration, tu sais, c'est pas rien qu'une affaire de gros gars poilus avec des chemises de chasse à un moment donné.
sais pas du tout de qui tu parles.
Non, mais ils sont nombreux, puis j'y respecte tous, là. C'est pas ça l'affaire, mais c'est une couleur de la restauration. Puis, tu sais, c'est tout le temps vu comme étant du monde qui ont des problèmes, qui ont de l'abus, qui sont un peu dans une vie de rockstar, puis ça se garnote partout. Puis, un moment donné,
moi. Avec une bouteille de champagne à la bouteille, là.
Oh, ben, le sabrage. Tu sais, tout le monde a fait du sabrage, là. Ça devient super banalisé. Puis, à un moment donné, moi, j'ai eu un déclic parce que mon amoureuse, Marie-Hélène, elle m'a dit, tu sais, j'aimerais ça que pour ton prochain restaurant, tu rentres pas à tous les soirs avec 3-4 verres dans le nez. Parce que, tu sais, c'était pas comme, je me couchais pas le soir à pas savoir où est-ce que j'avais parké mon char, puis c'était la catastrophe à tous les jours, là, on se comprend bien, là. Mmh. Mais tu sais, juste le fait que c'est une habitude qui est persistante, puis qu'on calcule plus. Mmh. Fait que j'ai fait, OK, je te le promets, quand je vais travailler, je vais pas boire au restaurant.
Ah.
Fait que ça a commencé avec un premier mois. J'ai fait ce mois-là, ça a bien été, puis après ça, j'ai fait, oh, je me sens bien, c'est agréable, je vais persister. Mmh. Parce que je me disais, c'est plus facile zéro à compter que de compter un ou pas, ou est-ce que je peux ou je peux pas, est-ce que je triche.
Moi, je suis assez
droit quand même, là, tu sais, j'ai une parole, je la tiens. C'est des petites règles que j'ai, là, c'est facile à gérer après la vie quand tu comptes pas de menterie, là. Tu sais, c'est simple. Puis, avec le temps, j'ai persisté, puis c'est dur d'ouvrir un resto, hein, fait que ça m'aidait à avoir l'énergie pour le faire.
Et ça a pris combien de temps avant que tu sentes le boost d'énergie arriver?
Ah, ça a pris en dedans d'un mois, tu sais, c'est des mois que je faisais une couple de mois par année déjà. Puis après ça, ben non seulement le boost d'énergie, mais c'est que ça a fait le ménage autour de moi. Il y a bien des gens qui me trouvaient pas le fun ou qui étaient gênés ou qui étaient mal à l'aise. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, en ne m'exposant pas à ces cercles-là, tu sais, mettons des liquid lunch où tu bois 3 bouteilles de vin.
Ben oui.
Puis là, tu t'en vas dans une place chic. Puis là, tu es avec ton ami riche. Puis là, tu es riche toi aussi. Puis là, bon, on va se prendre une bouteille à 200$. Puis une autre. Puis des martinis. Puis là, il est rendu 4 heures de l'après-midi. Là, tu ne peux pas travailler, là. Mm. Puis là, t'es comme ça à brosse, là, puis c'est comme normal, puis c'est cool. Puis je me suis rendu compte qu'en faisant plus ça, déjà, ça allait beaucoup mieux dans mes poches. Puis quand j'ai recommencé à voir ces mêmes personnes-là, on n'avait plus rien à se dire.
Donc, la relation, l'amitié,
la relation, c'était le niveau de vie.
Passait par l'alcool.
Puis c'est un rite, c'est un rituel, c'est un langage. Puis après ça, je me suis mis à trouver ça excessivement vide. Puis je me suis repositionné, puis ça a créé un déclic pour de faire comme... Tu sais, on essaye tous d'être bon, hein? De pas être un mange une marde. On essaye, tu sais? Tout le monde dans son fort intérieur essaie de bien faire. Puis moi, je me suis comme rendu compte que j'étais un peu un mange une marde, ça la brosse. Puis j'ai comme décidé d'arrêter ça.
Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que l'année dernière, Anthony Bourdain s'est suicidé.
En effet.
Et moi, j'ai tellement capoté, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui aimait la vie, c'était quelqu'un qui aimait... Et quand il s'est suicidé, on s'est tous dit, bon, ben, il y avait quelque chose derrière tout ça, cette apparence de, ah, oh, le gars qui aime la vie, qui voyage partout, tu sais, qui est super friendly avec tout le monde. Ben, finalement, derrière ça, il cachait détresse.
Oui.
Puis là, je me suis dit, ben, il y en a peut-être d'autres des chefs au Québec qui, derrière le côté, ah, oh, on est sur le party, la bonne chair, on aime ça, qui cachent, dans le fond, une détresse, puis tu caches ça derrière un verre de vin puis de la bonne bouffe. Hein?
Mais moi, j'ai des grands exemples qui sont autour de moi puis avec qui j'ai la chance d'entretenir des dialogues. Là, tu sais, il y a les gens de l'équipe de Joe Beef là, qui sont pour la plupart tous sobres. Tu sais, comme il y a David McMillan qui est un de mes héros, qui est un grand monsieur avec Fred Morin, puis tu sais, qui a fait cette décision-là aussi. Puis ça envoie une autre conversation, hein, parce que tu sais, nous, en étant chef, surtout en étant médiatisé, on est un modèle, on est un exemple.
Ouais.
Puis quand t'es un exemple, ça brosse, puis t'es déchéant, c'est pas la même chose, puis t'attires pas la même crowd de gens qui veulent travailler
pour
toi.
Mais en même temps, je me souviens, j'avais fait un reportage au Franc-Tireur sur un gars qui faisait des shows un peu rock'n'roll, tu sais, le gars était tatoué, puis faisait des shows d'humour, mais vraiment rock'n'roll et tout. Et le gars, il avait arrêté de boire. Il était connu, lui, pour monter sur scène avec une bouteille de whisky, OK, de rhum. Puis il mettait de l'eau colorée dans sa bouteille. Puis il montait, puis là, je dis, ben pourquoi tu le dis pas que t'as arrêté de boire? Mais il dit, ma crampe va me lâcher. Ma crampe va me lâcher. Fait que le gars, il mettait, puis là, il dit, je veux pas que tu filmes ça pour les Français. Puis là, il mettait comme du faux alcool dans sa bouteille. Puis là, il montait sur scène, puis faisait semblant d'être sous. Puis là, les gens disaient, yeah! Mais le gars, il buvait pas pantoute.
Mais j'ai fait ça longtemps, moi, par exemple, me faire des faux gin tonic avec un verre de soda puis une lime dedans juste pour pas avoir la conversation. Puis tu t'en vas dans un bar avec tes amis, là, puis tu sais, juste pour pas faire comme là, là. Ah, oh, qu'est-ce que t'as? T'as un Perrier? T'as-tu un problème d'alcool? Nanana. Hey, c'est pas de vos crises d'affaires, puis c'est un party. On peut-tu comme avoir du fun, s'il vous plaît?
Non, mais. C'est de tanner.
Ça, c'est comme une espèce de translation sur pourquoi qu'on se met tout le temps le nez dans la vie des autres. Tu sais, puis de faire comme, gars, c'est votre vie, là. Vivez la donne.
Mais dans moi, le fond, j'aurais même pas dû te poser la question. J'aurais juste dû dire.
Ça me dérange pas, moi. Je suis pas bon à parler, mais il faut être prêt à avoir la conversation.
J'ai quand même dit, l'alcool, c'est un langage.
Oui. Oui, c'est un langage.
C'est un langage.
C'est un rite, c'est un rituel où les gens sont ensemble dans le même état puis s'abandonnent en même temps.
Ouais.
Puis ils laissent tomber leur masque en même temps, puis ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas. Une désinvolture puis qui est un peu vulgaire, puis qui est le fun. Là. Moi, je suis pas dans le jugement. J'aime ça voir du monde avoir du fun.
Mais là, tu peux plus rencontrer ces gens-là, ça.
Ben, je peux les rencontrer, mais c'est juste qu'ils vont me trouver plate. Puis moi, à un moment donné, la même histoire quatre fois... Je la trouve pas le fun.
Et puis, je suis un frein à la fin. Plus le même langage.
Ben, effectivement.
Il y a plus le code en commun.
Il y a un regard extérieur. Il y a there is self-conscient movement.
Tu sais, il y a une phrase un peu clé ou un peu standard qui dit je suis ce que je mange, mais on pourrait dire je suis.
Comment je baisse
comme je suis.
Ma sexualité me caractérise.
Oui, mais alors, si c'est ça, comment se fait-il que... et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, même si je suis pas sexologue. Comment se fait-il que les gens ont autant de réticence à parler de choses comme, justement, une relation intime? Moi, c'est pas que les gens ont autant de réticence à parler de masturbation.
Ah, mais dans
tout le monde se masturbe.
Oui, mais dans un couple, on le sait même pas si l'autre se masturbe puis à quoi il pense. À quoi penses-tu quand tu... Moi, des fois, quand je donne des conférences, je donne cette question-là, puis ça fait sourire tout le monde. Je les mets dans l'embarras, un malaise volontaire. Je dis, à choisir, aimez-vous mieux que l'autre soit avec vous en pensant à quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre en pensant à vous? Là, ils disent, ben, ni un ni l'autre! Ben, c'est justement...
Ben, non, mais je m'excuse. Ouais, mais là, Richard, il a sa théorie.
Attends une minute. Attends, me l'a dit, excuse, mais si ma blonde me disait, en me masturbant, je pense à toi, j'aurais le plus gros fou rire de toute ma vie.
Oui, ça, c'est pas très crédible.
J'aurais le plus gros fou rire de ma vie, je dirais fuck you. Là, ou alors, pauvre fille.
Non, mais pendant qu'elle est dans une activité sexuelle, tu sais, pendant qu'on est ensemble, est-ce qu'on pense qu'à ce qui se passe là?
Non. T'es ailleurs.
Puis si jamais t'es ailleurs, moi j'entends des gens qui ont trompé. J'ai même pas joui, j'ai même pas bandé, que je l'aimais pas. Tu sais, tout pour se dédouaner, là.
Mais beaucoup, beaucoup.
Ou je pensais à toi.
Mais beaucoup, mais beaucoup de
couples. Ah, à quand... toi, la thérapeute?
Non, ouais. Okay.
Non, c'est pas ça. Là, j'ai trompé ça, de part en pensant à la thérapeute.
Coup de théâtre.
Autre chose, il faut faire la différence entre la réalité et les fantasmes. On a tous des fantasmes. Est-ce qu'il faut nécessairement les réaliser?
Non. Un fantasme, comme j'ai dit tantôt,
des fantasmes, c'est sûr, mais je cherche pas nécessairement à les réaliser. Premièrement, je suis convaincu que si je réalisais, ça serait plus plate que le fun que j'ai
parce
à les imaginer.
Le fantasme, c'est un peu comme rêver d'une destination qu'on n'est jamais allé. Puis dans notre tête, il fait toujours beau. Ouais. C'est fantastique. Les gens sont gentils, on mange bien. L'hôtel, c'est extraordinaire. On a la chambre qu'on veut. Mais ça, ça reste beau. Le fantasme a une durée de vie, là.
Ben oui.
Mais c'est le problème et la solution.
Quand tu y vas, là, finalement, là.
Ben, la chambre ils ont perdu tes valises. La chambre est dans le troisième sol.
La plage,
ils sont en rideau.
Ben, c'est puis ça, le buffet n'est pas si bon que ça, finalement.
Ou c'est exactement comme tu pensais, puis il faut que tu assumes la suite. Parce qu'il y a ça aussi dans le fantasme. Hein? Mettons que tu réalises un fantasme, là, puis ça va exactement comme tu voulais. Tu sais, un fantasme qui est accessible, il faut que tu assumes la suite, là, parce que ta vie, elle ne sera plus jamais pareille.
Ouais. Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure.
C'est très bon, c'est-à-dire que c'est tellement fort, c'est tellement bon que là, tu veux continuer.
C'est souvent ce que les hommes font.
Tu peux pas revenir avant.
Aller vers le fantasme, exemple. Tu travailles dans un bureau, puis tu as une collègue qui t'allume. Là. Puis à un moment donné, tu t'en vas vers ta collègue, puis là, c'est ça que tu cherchais. Là. Ça va te donner le gaz pour quitter ta famille. Pour hey, c'est classique, là. On voit ça partout autour de nous. Là. C'est rare qu'un gars s'en va. Qui s'en va tout seul, qui s'en va réfléchir. Il s'en va avec sa bite en avant, puis il s'en va avec le secours puis le réconfort de la transition. Il se fait un beau rebound, puis après ça, il recommence sa vie. Puis,
mais des fois, quand je disais que je travaille beaucoup...
J'invente rien, là.
Que je travaille beaucoup dans l'infidélité, des fois, c'est un catalyseur qui manquait. Des fois, il y a des rencontres dans la vie que... Une chance que j'ai rencontré cette personne-là
pour
parce
les
que
gars.
J'étais endormie.
Surtout pour les gars. Les gars, on est Tarzan. On lâche une liane quand on a la main sur l'autre liane.
Oui.
Alors, tu me parlais beaucoup tout à l'heure du timing, le rythme dans un plat, dans un repas. Notre timing, il est comment?
On a une bonne conversation. Fait que le temps passe bien, vite et bien.
Alors, voici les pâtes.
Oh!
À droite, c'est les blancs. À gauche, c'est les rouges. Donc, servez-vous. On va commencer par Sylvie.
Oh, on a un lien de fusilli ici, là. J'aime ça. Ça sent excessivement
bon. Fusilli blanc, fusilli rouge. Oui, ça blanc. Sent bon. Hein?
Ça vient d'où, ça? Qui a fait ça?
Villarmando.
C'est excessivement bon.
Et le vin a été choisi par...
Patrick Desi.
De Méchant Raisin. OK, toi, regarde bien ça. Le lien que je fais.
Wow.
Ah, quand même, regarde bien le lien que je fais. Toi.
Oui.
Les vegans.
Mm-hmm.
Les végétariens.
Oui, les dogs.
Les emmerdeurs.
Est-ce que ce sont des pervers alimentaires?
Non, j'aime beaucoup ce que tu apportes parce que c'est quelque chose avec lequel on compose. Puis j'ai l'impression qu'on a échangé des fois, la spiritualité pour des dogmes alimentaires. C'est comme une genre de croyance.
Ah oui, c'est une religion.
Il y a des gens qui choisissent le véganisme parce qu'ils ont envie de manger plus de légumes, qui acceptent pas que les animaux soient maltraités, qui ont des visées environnementales, d'être des bons citoyens, puis tout ça. Il y a un moment donné aussi où ça verse dans l'activisme. Fait que tu sais, il y a une différence entre c'est mon choix personnel, puis après ça, que ça devient comme une espèce de guérilla, tu sais.
Puis on va défoncer des vitrines de restaurants.
Ouais, je vais peinturer à cacane du monde qui porte de la fourrure ou des trucs comme ça. Tu sais, moi, je suis assez vivre et laisser vivre, là. Je cuisine beaucoup. C'est drôle, hein, parce que la plupart des trucs que je crée en ce moment, je les pars vegan.
Ah.
Puis après ça, j'ai les protéines, parce que je trouve que c'est plus facile d'ajouter que d'en enlever.
Ah, c'est très drôle.
Puis je trouve ça super intéressant d'un point de vue économique aussi, parce que pour la plupart des... Je trouve que c'est plus intéressant à manger. Ça, je trouve que de manger végé, puis d'enlever du beurre, puis du fromage, toutes les affaires faciles, c'est un défi. Est-ce que je suis végan? Absolument pas.
Mais n'importe quelle idée poussée à son paroxysme devient débile. Bon, je peux comprendre que quelqu'un, mettons, dit « je mange pas de viande », je peux comprendre. Je bois pas de lait parce que les vaches, effectivement, les vaches ne sont pas dans les prés et dans les prés. Tu vois. Mais quand tu es rendu en disant, moi, je mange pas de miel.
Oui, le miel, j'avoue que c'est de l'enculage de mouche.
Là, tu dis, attends une minute, là.
T'es drôle, toi.
Là, tu dis, les abeilles sont pas dans des enclos. D'abord, nous, je suis en train de traire l'abeille pour qu'elle fasse du miel. Attends une minute.
Ça appartient à chacun des personnes. Mais tu sais, quand ça devient de l'activisme, moi, je trouve ça. Quand ça vient de l'activisme puis qu'il y a de la violence, moi, ça m'embête.
Ouais. Ben, comme les gens qui, les véganes qui attaquent les bouchers. Écoute, aujourd'hui à la radio, j'ai fait une entrevue avec une dame qui commercialise la viande de phoque.
Oui.
Le loup marin, le phoque.
C'est et d'ailleurs, qui mange 10 morues par jour.
Et d'ailleurs, bientôt, il va y avoir un festival pour mettre en valeur la viande de phoque. Savez-vous comment ça va s'appeler?
Le phoque fest. Ouais, c'est pas le phoque fest.
Le phoque fest. Hein?
Ouais.
Ce qui est quand même, on rejoint la nourriture et le sexe. Mais c'était très intéressant parce qu'elle me disait, écoutez, c'est une viande qui n'est pas une viande d'élevage. Mm-hmm. C'est un animal qui vit dans la nature. Il y a zéro hormone, il n'y a pas d'antibiotiques, on ne lui injecte rien. Donc, normalement, les gens qui sont en faveur de tout ce qui est bio et tout ça devraient adorer la viande de phoque. Mais parce que Brigitte Bardot est passée par là, elle a, excusez-moi l'expression, elle a fucké notre vision.
Elle a démonisé.
Ben, c'est de l'anthropomorphisme aussi. Oui. Là. C'est comme les gens qui veulent pas manger de langue de bœuf, mais qui sont super game de manger un dos de bœuf. Souvent, les gens se déconnectent hein, puis pensent que la viande, elle est née dans un styrofoam. On a poussé une petite graine, puis ça a fait un steak. Puis tu sais, un bœuf, là, ça a au moins 10 fois son poids en pisse puis en nourriture. Puis en défection.
Oui.
Fait que, tu sais, un moment donné, faut que tu sois conséquent. Si t'es pour manger du bœuf, ben, faut que tu le manges au complet, le bœuf. Faut que tu manges les bras, faut que tu manges les jambes, faut que tu manges la cervelle, faut que tu manges les joues. Ce sont des organes, le rendu.
C'est bon,
là.
Voilà.
Oui.
Richard adore la joue de bœuf.
La langue de bœuf, c'est magnifique, mais là, c'est parce que, un moment donné, on fait de l'anthropomorphisme, puis on est dégoûté.
Non, c'est parce qu'on personnalise l'animal. Je mange pas du lapin, c'est trop cute, puis j'ai donné un nom.
Tu sais, mettons, on est là, puis là, on veut manger du bœuf, on a le désir de manger du bœuf, du porc, du poulet.
C'est social.
Mais ça part tout de...
C'est social.
Ce sont des habitudes qui se sont transférées parce qu'on devait s'alimenter. Tu sais, aujourd'hui, il y a d'autres moyens. On regarde le guide alimentaire canadien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était
pas toi et moi, à la radio. Oui.
C'est un feu roulant, on a eu beaucoup de plaisir. Puis tu sais, cette espèce de tollé qui fait que la moitié de ton assiette est des légumes, le quart sont des protéines, toutes catégories confondues, et l'autre quart sont des grains entiers. Puis là, ça crie au scandale.
Les
groupes de pression se manifestent. On polarise le guide. Tu fais comme, Christy, ça a du bon sens.
Oui.
Regarde, là, en ce moment, là, qu'est-ce qui se passe dans notre assiette, là?
Ouais.
Là, c'est notre voisin Armando, c'est ça?
Villa Armando.
Des grains entiers.
Des pâtes.
Qui sont entrelacés d'une sauce aux légumes avec un petit peu de saucisse dedans.
Un tout petit peu.
Ça fit.
Tout à fait.
Ça fonctionne.
Absolument.
C'est une punition? Est-ce qu'on a souffert?
Non.
On a
puis l'entrée, la même chose. On a mangé des aubergines au parmesan. Donc, il y avait des légumes, il y avait des aubergines, de la tomate, un tout petit peu de fromage.
Un tout petit peu
mais
de
fromage. Mais le fromage n'était pas au centre de l'assiette, là.
Puis la viande ici est là pour assaisonner. Je pense qu'il y a une clé dans ça. Si on réévalue nos besoins, parce que tu sais, on est sédentaire, on ne bouge pas tant que ça. On mange parce qu'on est émotif aussi. Hein? Souvent, il y a de la compulsion.
Mais il y a des gens qui mangent parce qu'ils s'ennuient aussi. Mm-hmm. T'sais, moi, je dis aux gens, dans 15 minutes, c'est un bon repère pour stopper une compulsion. T'sais, dans 15 minutes. Donc, je m'octroie le droit de le faire, mais dans 15 minutes.
Puis tu penses que dans 15 minutes, le
ben, c'est le que si j'ai une fringale de Doritos, là, dans 15 minutes, donc je me donne le droit, mais en attendant, je m'occupe. Puis ça se peut que mon 15 minutes devienne une demi-heure ou une heure. Puis ça se peut que ça aille juste au lendemain.
Moi, ça fait 3 ans que mon 15 minutes...
Voilà, c'est ça que j'allais dire!
C'est exactement ça que j'allais dire!
Tu t'aimes!
Les deux, là. Toi, tu dis un repas, c'est un partage, un repas.
J'avais ça.
Attends. Écoute-moi.
C'est un langage. Les gens vont se mettre des mots dans la bouche.
Je sais, il y a cette technique.
Écoute-moi. Un repas, c'est un partage. Puis faut, bon. Puis toi, là, une relation sexuelle, c'est une rencontre avec quelqu'un. Puis ça. Mais tu sais, des fois, là, un quickie, là.
Une commande à l'auto, McDo, manger des bouchées.
Un quickie, ça peut être 5 minutes, là.
Mm-hmm.
One bam,
mais quand il n'y a rien que ça, Richard, ça fait mal.
Puis toi, un McDo, commande à l'auto.
Moi, je suis le plus grand fan du monde du Big Mac, honnêtement. Là. Il y a des périodes où je fais le moins bien, là, tu sais, où je suis vraiment occupé. Là, puis là, je finis un shift. Tu sais, ça fait 18 heures qu'on travaille. Fait que là, souvent, moi, j'ai comme coutume d'aller reconduire mon staff aussi, là. Fait que ça, on fait des tours de char, là.
Ben, en plus, tu bois pas, fait que t'es pas être le designated driver.
Ouais, puis là, on fait comme du take-out à l'auto, tout le monde mange en silence son trio. Le mange l'inal, on s'entend.
On l'engloutit.
Fait que plus qu'on travaille fort, moins qu'on mange bien à la fin de nos shifts.
Donc, il y a une place pour ça.
Ben oui, c'est sûr.
Ben oui,
ben moi, j'ai inventé la poutine inversée. Là. Faut-tu s'entendre qu'il faut avoir un attachement? Hein?
Ben, mais les frites de McDo.
Ah, sont-ils
ben,
frites.
Mais il y a des bons McDo et il y a des mauvais McDo.
Hein?
Ouais, il y a des McDo là, avec du monde qui s'en calisse, là, qui ne sont pas capables de mettre du sel sur les frites sont frites, ils ne respectent pas les temps. Tu sais, moi, j'ai un palais qui est très, très, très développé.
Ben oui,
c'est mon instrument de travail. Hein?
C'est ton organe.
Mon nez, ma langue. Oui, c'est ça, c'est mon organe professionnel. Puis, je sais quand l'huile est vieille. Je sais quand la croquette est à 5 minutes de plus. Quand ça sort de la friteuse, là, puis tu te brûles les doigts, là, des fois, je cale les frites, je fais « Hey, tes frites sont pas fraîches. Je veux des frites fraîches. »
À Montréal, c'est quoi ton McDo, là, celui qui est...
Moi, là, mon McDo préféré, là, il est à Ange Gardien, parce que je vais chercher ma fille à Bromont un week-end sur deux. Puis mon petit stop, il est soit à Ange Gardien ou à Bromont.
Et les frites sont bonnes.
Les frites sont bonnes. C'est des bons enfants de région qui sont là, puis qui travaillent fort, puis qui sont contents. Tu sais, des fois, tu te retrouves... tu sais, en ville, il y a beaucoup, beaucoup de jobs. Hein? Puis ça, c'est un sujet parallèle au fait qu'on cherche la main-d'œuvre dans la restauration. C'est de plus en plus dur à staffer. Puis le mot « care », tu sais, les gens là, qui s'en préoccupent puis qui font « Hey, moi, je suis fier d'avoir fait des frites qui sont chaudes, qui sont dans le bon temps. Mon travail, même si c'est au McDo, il y a un sens. Puis il doit être bien fait. » Puis tout ça. Fait que
la
moi, je suis pas mes endroits.
Mais donc, il y a une place pour le One Bam Thank You Ma'am comme il y a une place pour un Big Mac.
Ben oui, j'espère. Je pense qu'il faut être présent, puis là, pendant que ça dure, que ce soit une heure ou une minute, tu sais.
Tu sais, des fois, la baisse, c'est rien comme... Parce que c'est deux personnes qui se masturbent mutuellement, l'un dans l'autre. Là. Non, mais c'est pas tout. Il n'y a pas toujours une rencontre.
Pas toujours sage et propre.
Ben non, c'est sûr.
Mais c'est des zones tabous qu'on censure, et c'est ça, j'ai rien contre, surtout par rapport aux ados, d'éduquer sur c'est quoi un vrai oui, c'est quoi un vrai désir. C'est pas juste de se prémunir, puis c'est quoi un vrai désir. Mais dans le couple, quand t'es consentant puis t'as envie de jouer, tu peux aller dans toutes les directions possibles. Tu sais, c'est parler cochon.
Ouais. Mais oui!
Ah, oh, c'est pas beau. Non, je suis pas outrée. Ça se peut que ça m'allume. Ça se peut que ça m'amène dans mon corps.
Mais jamais je te... Tu sais, regarde ça. On est capable de dealer avec les différents niveaux. Tu sais, je peux parler cochon à ma femme, puis jamais je parlerai comme ça dans la vraie vie. Tu sais, je peux dire, ah, ma grosse salope, blablabla. Puis dans la vie. Non, mais...
On va vous laisser, là.
mais dans la vie, je ne parlerai pas comme ça. On est capable de faire les différents niveaux. Aujourd'hui, on est dans une société de transparence où on nous dit que dans ta tête, ça va répondre aux mêmes critères que dans la vraie vie de tous les jours. Mais c'est pas
ridicule.
Ça.
Mais une autre chose que j'ai envie de vous dire, je vous partage ça ce soir. Ouais. Moi, on dirait, là, que j'ai cligné des yeux puis j'ai manqué quelque chose.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Les transgenres, j'ai manqué ça.
T'as pas vu ça venir?
Mais ça, c'est arrivé vite!
Oui, j'ai cligné des yeux, là.
C'est arrivé vite!
Oui, mais c'est arrivé vite pour tout le monde, je pense.
Ben oui, je pense que tout le monde a un peu pris le coup.
Mais je travaille là-dedans, mais je me dis, c'est l'exception de l'exception.
Tiens, le bon gâteau aux carottes.
Est-ce qu'on... Là, je me dis, c'est rendu que je dis dans mes interventions médiatiques... Est-ce que je peux célébrer la joie d'être moi? Bien je suis une femme, c'est le fun d'être une femme.
Ben oui,
je suis une femme, c'est le fun d'être... Ben oui!
Même ça, tu dois être gênée des fois de dire, hey, moi, ma féminité...
Je devrais être non-genrée. Même les filles de mon chat, je me dis, ben, c'est correct qu'ils portent du rose, c'est correct qu'ils prennent mon maquillage, qu'ils essaient mes souliers. Je trouve ça drôle!
Là, je me dis, oh, faudrait que ça soit peut-être pas genré. Puis là, je l'ai pas vu. Je vous dis ça là, très humblement. C'est des gens de l'ordre qui écoutent. Là. Je l'ai pas vu venir. Quand je vous parle d'LGBTQ, je sais plus quoi, puis que dans mon bureau, je vois un homme qui a envie de s'habiller en femme, puis qui a intensifié son désir de se féminiser, puis qu'il a presque 60 ans, on s'entend qu'il y a le temps qu'il pense à lui.
Ben oui.
Il y a le temps, là.
Ben oui, il y a le temps.
Puis il n'ose pas encore à cause que qu'est-ce que mes filles vont penser.
Ah oui.
Ben moi, j'entends ça. Ou un jeune de même pas 25 ans qui me dit, ben j'ai des fantasmes homosexuels, ça veut-tu dire que je suis homosexuel? Même si on dit qu'il apparaît de la diversité, puis tout a l'air tout ouvert, c'est pas
c'est
que
pas
j'entends.
Vrai sur le terrain.
Mais je parle en mon nom.
Ouais.
Je travaille pas là où c'est laissé Centre-Sud ou que, tu sais, il y aurait une clientèle que c'est, je verrais que ça, je vous le dis. Je travaille plus dans trahison amoureuse, mais il reste que je reste un médecin de famille qui fait des fois de l'accouchement. Donc, il y a des généralités, mais j'entends, je me dis comment ça se fait que dans les médias, c'est que ça. C'est pas juste des Caitlyn Jenner, là.
Ouais.
Et il y a une femme récemment qui a fait, pour une université sérieuse, une recherche sérieuse sur les enfants qui veulent changer de sexe. Mmh. Et elle a dit, selon sa recherche, elle a interviewé plein de gens qui voulaient changer de sexe, qui ont changé de sexe finalement. Elle a dit que souvent, ils répondent à la pression de leur père, parce que c'est cool de changer de sexe, puis c'est le fun, puis c'était à la mode, puis tout ça, puis ils ont fait ça, puis ils l'ont regretté. Elle a écrit, elle, sans aucun préjugé, c'était sa recherche. Et,
Elle
s'est fait tomber sur la tomate. C'était censuré parce que ça rentrait pas dans le dogme en disant, ben oui, tu peux changer de sexe. Lundi, t'es un gars, mardi, t'es une fille, mercredi, t'es entre les deux, jeudi, bon.
Mais moi, je me dis, j'aurais un enfant, là, à la naissance, là, c'est un garçon ou une fille. J'aimerais ça le savoir.
Mais oui.
Puis ça se peut que c'est une fille, je l'habille en rose parce que ça va me faire plaisir. Là, il y a des médecins qui vont dire, ben, ça va, elle choisira. La personne
mais
choisira.
Oui. Mais oui. Mais non.
Ah ben, depuis quand qu'on écoute tout le monde, là? Ça, à un moment donné, moi, c'est ma fille.
Non, mais Chris,
on peut-tu commencer par, hey, c'est ma fille, là? Tu sais, je suis quand même un adulte responsable.
J'ai le droit d'être content d'avoir une fille.
C'est la meilleure personne pour savoir ce dont elle a besoin.
C'est un bébé, fait que pour l'instant, c'est pour nous autres qu'on l'habille, là, tu sais, comme.
Ben
on va acheter des pyjamas qu'on trouve cool. Puis à un moment donné, moi, ma fille, elle aime ça du jaune. Puis c'est elle qui choisit son linge. Puis là, Jeannette, à 4 ans, là, tu sais, elle fait ses calls, puis elle porte des robes de nuit, puis elle a du fun. Puis à un moment donné, elle va porter des jeans, c'est des enfants.
Ah oui.
Tu sais, puis oui, on encadre. Puis il y a un petit peu nous autres là-dedans. Hein, puis il faut arrêter d'être gêné de tout faire. Là. Hey, moi, je verrais bien quelqu'un qui me dise quoi faire. Avec mon enfant, fuck you.
Fuck you.
Mon enfant.
Mais on va l'écrire PHOQE parce que la viande de
oui.
Il paraît que c'est très
c'est
bon.
C'est très ferrugineux, hein? C'est très, très bon. Les animés seront ravis.
Pendant qu'on y est dans les confidences.
Alors, c'était... Donc, tu n'en prends pas. Oui, wow. Oui. Est-ce que c'est la même bouteille, oui?
Pourquoi à chaque fois...
C'est la même bouteille.
Que je veux... Pourquoi à chaque fois que je veux manger du pain, que je veux manger des pâtes ou manger un gâteau, tu me dis c'est pas bon pour ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai?
Ben, ce que t'as, moi, je l'ai plus. Toi, t'as 30 livres à perdre. Moi, j'en ai 40 à perdre. Alors...
Selon quel standard?
Selon moi... Par rapport à ce que j'étais avant.
Et toi, t'as calé 40 puis t'as décidé que Richard, c'était 30 ou Richard, t'as calé 30?
Oh, Richard, il n'y a rien calé. Richard, c'est juste.
On aime les crevettes.
Moi, je dis, ben, ouais. Moi, je dis,
on aime ça, les crevettes, nous autres.
Il faut perdre combien de livres, bébé?
On perd combien de livres?
Combien de livres on a à perdre?
Bon, combien de livres vous ferait du bien?
On va trinquer à la Saint-Valentin, qui est à la. On a passé toute la soirée à faire des liens entre nourriture et sexualité. Mais s'il y a un soir dans l'année où on célèbre le lien entre les deux, c'est bien le 14 février quand même.
Fait que là, t'es obligé de bien manger puis super baiser à Saint-Valentin?
Ben, de toute façon, tu manges trop, ben, tu es en général, là, mais.
Succion. Non, mais il y en a peut-être qui nous écoutent, ils vont peut-être être fatigués à Saint-Valentin. C'est une pression pour eux autres.
Ah, si vous saviez comment c'est une date confrontante pour les couples.
Ah, oui,
ils s'aiment plus.
Au restaurant, là, c'est une tragédie.
Une chance, c'est pas le temps des fêtes, c'est juste une journée.
OK, attends. Alors, Sylvie d'abord sur la Saint-Valentin, puis Dany ensuite. Ça, je trouve ça passionnant.
Bien, c'est l'enfer. C'est très confrontant pour des couples qui sont dans une décision. Je reste où je pars, j'embarque ou je débarque, j'ai un pied sur la chaloupe, puis j'ai un pied sur le quai.
Ah!
J'ai pas envie de fêter, j'ai pas envie de dire je l'aime, je sais même plus. Alors, c'est une date obligée. Ils ont vite hâte là, d'être rendus au 15, là, puis espèrent travailler un 16 heures cette journée-là.
Et nous, on s'aime tellement, on est allé à New York juste pour entendre le dernier spectacle de Paul Simon. Alors, les restaurants, la Saint-Valentin.
Dans les restaurants, là, un restaurant, c'est la pire place pour célébrer la Saint-Valentin.
Tellement.
T'es programmé, t'es au quart de tour, ton siège va rouler trois fois, t'es collé sur ton voisin. C'est fascinant aussi, quand tu regardes, tu tires le coup dans une salle de restaurant de Saint-Valentin, là, tu vois souvent un homme qui regarde à gauche. Puis une femme qui regarde du côté opposé, puis sont face à face.
Ah.
Puis après ça, ils vont manger en silence. Puis après ça, entre les deux, ils sont débarrassés. Puis après ça, ils se regardent. Ils disent, ah, on vient d'être débarrassés. Oui. Puis après ça, oh, quelqu'un qui tombe dans la lune. C'est d'une lourdeur, là. Puis c'est à peu près 20% de la salle à manger, hein. Tu sais, moi, je suis pas cynique, là. Je regarde ça, puis ça me rend triste. Mm. Souvent, les gens, pour éviter ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont manger à Saint-Valentin avec plusieurs couples.
Ah.
Fait qu'ils s'évitent de. Ils y vont, mais ils s'évitent, c'est comme un mécanisme de survie. Là.
Mais souvent même pas à Saint-Valentin, là, souvent, on va souvent au restaurant, Sophie et moi.
Très régulièrement.
Et on a tout le temps quelque chose à dire, puis on se parle, puis tout le temps. Mm. Mais tu vois souvent.
Vous énervez tout le monde parce que vous êtes trop heureux.
Oui, ben oui. On a le bonheur et cœur.
Il y a des couples à côté qui ne se parlent pas.
Il y a des attentes avec la Saint-Valentin, hein? Tu sais, mettons, t'as pas eu la bonne réservation. T'es le gars, là, puis là, t'es un peu focal toute l'année, là, mais là, c'est ton moment, là. T'as le cadeau de Noël, t'as le cadeau de fête, pas oublier la date de fête des enfants, ton anniversaire de rencontre, puis t'as la Saint-Valentin pour se carrer, tu sais. Mm. Habituellement, là, ça, là, c'est ton 6 à 12 fois par année, là. C'est un couple dysfonctionnel, d'après moi, là, statistiquement. Puis la Saint-Valentin, là, si t'as pas la bonne réservation, t'as pas pris l'initiative ou t'as pas fait le petit geste, là, t'es dans la merde. Mm. Si vous saviez le nombre de chums que j'ai, moi, qui me font des téléphones, ils disent là, Chris, c'est plein trop.
Trouve-moi une place.
Trouve-moi une place. Fais quelque chose.
Mais ça revient à quelque chose qui a été comme un fil conducteur dans tout ce qu'on s'est dit depuis le début du souper, depuis que vous êtes arrivés. C'est des gens qui se mettent des obligations sur les épaules.
Oui.
Une obligation que quand tu reçois, il faut que ce soit extraordinaire. L'obligation qu'il faut que tu aies une grosse maison puis une grosse auto. Puis l'obligation qu'il faut qu'au lit, que tu sois comme ci puis tu sois comme ça. L'obligation qu'il faut que pour la Saint-Valentin, tu fasses ci puis tu fasses ça. Puis il faut absolument que ce soit le 14 février. C'est débile, les pressions puis les obligations qu'on se met sur les épaules.
Et je vous souhaite, ceux qui nous écoutent, je vous souhaite un super souper gastronomique et une nuit de bain torride. Sinon, il y a McDo, service à l'auto et Pornhub.
Et les Doritos.
Et Pornhub.
Hein? Et les crottes au fromage.
Garde vos doigts avant, tout le monde. Hein?
Oh, les liches après, c'est bon. Oh! Où on demande à l'eau de les licher.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Gabriel Meunier. À la recherche, Hugo Veillé. Au montage, Philippe Seguet. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.
La pointe du Doritos, là, ça fait des pénis oranges, ça, faut être prudent. C'est pas un fait vécu, hein, j'ai entendu ça à quelque part.
Est-ce qu'on est encore en train d'enregistrer, là? Des pénis oranges, c'est
très bon. Docteur, j'ai pénis oranges, je sais pas pourquoi.
Hein, le gars, il mange des crottes de fromage.
Il mange des crottes de fromage pendant qu'il regarde la pointe, tu sais.
Qui mange des Doritos se lève avec le pénis orange.
Ouais.
Oh,
c'est le béret rien noir des temps modernes.